C'était donc il y a tout juste 20 ans, les deux astronomes suisses Michel Mayor et Didier Queloz découvraient donc depuis l'observatoire de Haute-Provence 51 Pegasi B, la toute première exoplanète. Cette découverte fut un véritable choc pour la communauté scientifique et elle a donné le coup d'envoi de la recherche sur ces planètes extrasolaires. Et 20 ans plus tard, plus de 2000 d'entre elles ont été identifiées. La grande question qui se pose maintenant est de savoir si parmi ces exoplanètes, l'une d'entre elles abrite les conditions propices à la vie. En tous les cas, les prochaines années seront décisives. La Tête au Carré a donc installé ses micros pour une émission exceptionnelle sous la coupole de l'Observatoire d'Haute-Provence, à l'endroit même où ce nouveau monde a été révélé aux yeux de la planète, en compagnie de ses découvreurs et du public. Bonjour à vous, qui nous a retrouvés avec beaucoup de scientifiques parmi justement le public, puisque se tient un colloque international autour des exoplanètes. Vous pouvez donc nous rejoindre pour cette émission exceptionnelle avec vos messages et toutes vos questions sur franceinter.fr et le mot-clé l'attaque.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Un plateau exceptionnel donc en ce 6 octobre, date anniversaire de cette découverte, toute première exoplanète. Nous sommes donc près du village de Saint-Michel-l'Observatoire, une centaine de kilomètres au nord de Marseille, sur un plateau calcaire boisé de chênes à une altitude d'à peu près 600 mètres. Et c'est là que se trouve la grande coupole depuis laquelle a été repérée donc 51 Pegasi B, la toute première exoplanète. Et nous avons la chance d'être en compagnie des Christophe Colomb de cette aventure qui a bouleversé toute la conception du monde. Michel Mayor à mes côtés depuis l'Observatoire. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et puis Didier Queloz, par téléphone depuis Cambridge en Angleterre. Bonjour à vous. Bonjour Didier Queloz. Michel Mayor, vous êtes donc astrophysicien, professeur émérite d'astrophysique à l'Université de Genève, membre associé à l'Académie des sciences de Paris. Vous avez été le directeur de thèse de Didier Queloz. Et Didier Queloz, vous êtes vous professeur de physique à l'Université de Cambridge et de Genève. Et donc ensemble, vous avez détecté la toute première planète, 51 Pegasi B, une planète deux fois plus grande que Jupiter, et qui est donc la première planète découverte autour d'un autre soleil que le nôtre. Et puis nous avons convié à vos côtés Anne-Marie Lagrange, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrophysicienne, directrice de recherche au CNRS, à l'Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, et membre de l'Académie des sciences, et vous avez, on le verra, vous aussi, joué un rôle très important dans la découverte de ces exoplanètes. Auguste Leventu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de cet observatoire de Haute-Provence. Merci de nous avoir ouvert les portes de votre grande coupole. Cette semaine, donc, je le disais tout à l'heure, se tient jusqu'au 9 octobre un grand colloque international autour des exoplanètes avec la crème des chercheurs du monde entier. Ils sont tous là dans ce beau coin de Provence. Et puis également à mes côtés, mon camarade Philippe Hénarejos, le rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace, qui a vécu aussi il y a 20 ans petit jeune journaliste.
J'ai vécu ces événements, en effet. Je savais qu'on avait découvert de planètes, mais je ne savais pas qui, mais je ne savais pas où j'ai dû attendre l'annonce officielle.
Auguste Leventu, on va ouvrir, parce que là on n'est pas dans la pénombre, mais en tout cas dans une certaine ombre, et on va ouvrir, on va l'entendre, les portes, les fenêtres de la grande coupole.
Il y a un peu de soleil.
Il y a un peu de soleil, il y a quelques gouttes de pluie qui sont tombées tout à l'heure. Voilà, donc là, il faut décrire aux auditeurs ce qui se passe, Auguste.
On est en train d'ouvrir le ciment, ce qu'on appelle le ciment de la grande coupole, qui permet de voir le ciel avec notre télescope.
Ouais.
Et on ne l'ouvre pas trop pour ne pas trop chauffer.
Voilà, il y a du soleil, mais il y a aussi un peu de pluie.
Je
vois quand même quelques gouttes qui tombent, mais ça nous permet de faire entrer le soleil depuis cet endroit exceptionnel. Michel Mayor, d'abord, je suis très heureux de vous retrouver pour la première fois, en tout cas, de vision. On s'était parlé au téléphone pour la Tête au Carré il y a quelques temps de ça. Mais c'est l'occasion pour nous, en tout cas, de fêter cet anniversaire avec vous. Un mot d'abord sur le prix Nobel de physique, parce qu'il a été annoncé ce matin. Vous étiez sur la liste des lauréats potentiels avec Didier Queloz. Vous avez déjà reçu de très grandes récompenses, les plus prestigieuses dans le monde entier. Évidemment, ce prix Nobel, c'est l'aboutissement pour tout scientifique. On était ensemble dans le bureau au moment où on pouvait s'attendre à ce que Stockholm vous appelle. Comment est-ce que vous avez vécu ce moment, comme tous les ans d'ailleurs, chaque année maintenant?
Mais honnêtement, chaque année, ça ne me perturbe pas trop, heureusement, disons. Parce que si on en venait perturbé,
oui, exactement. Vous étiez hyper relax. Hein.
Vous saviez, vous, l'heure à laquelle s'annonçait, moi,
absolument.
Pas.
C'est vrai.
Non, comment dire, comme je vous l'ai dit, il y a tellement de physiciens qui travaillent dans le monde, qui font des recherches fondamentales, absolument. Donc il y a un côté prétentieux à croire que parmi tous ces gens-là, c'est notre découverte qui va attirer le regard du comité Nobel.
Ouais.
Ce qui ne veut pas dire que je méprise du tout
bien sûr,
un tel prix, mais comment dire, il faut être conscient du nombre de physiciens et des découvertes majeures qui se font dans ce domaine.
Ouais. Didier Queloz, est-ce que vous y avez pensé quand même tout à l'heure aux alentours de midi moins le quart, lorsqu'on le sait que le Nobel est annoncé au monde entier ?
Écoutez, franchement, chaque année, c'est un peu le même rituel. Je reçois des emails un ou deux jours avant de plusieurs journalistes qui me demandent où je suis. Et puis je me dis, ah bah tiens, ça va être bientôt le prix Nobel. Non, mais Michel, il a très bien résumé la situation. J'entends la qualité de la recherche, de la science est tellement exceptionnelle que j'imagine que c'est chaque fois relativement difficile pour le comité Nobel de décider qui l'aura. Et ça fait partie du processus. Donc, qui sait, peut-être qu'un jour, on va recevoir un appel.
Bon, on espère qu'on sera avec vous d'ailleurs pour le fêter. Auguste Leventu, un mot justement sur ce Nobel de physique aujourd'hui autour des neutrinos, sur les travaux de ces neutrinos.
Oui, c'est ce type de travaux sur le neutrino a un impact sur la physique fondamentale, c'est-à-dire la nature même de la matière. Et l'oscillation de neutrinos qui a été découverte il y a moins d'une dizaine d'années, une des expériences était Supercamocandé au Japon, dont le responsable. Et ça a un impact majeur sur la physique. Hein.
Vraiment, en quoi ? Pour qu'on comprenne bien, physique, pour le profane en tout cas.
Si vous avez, en gros, si vous avez, vous avez des neutrinos qui ont trois couleurs en quelque sorte. Et on comprenait pas pourquoi on ne retrouvait pas le même nombre de neutrinos à l'arrivée, de neutrinos de soleil. Et là, on a montré l'expérience, dans leur expérience, on a montré que les neutrinos changeaient en quelque sorte de sexe pendant leur trajet. Ouais. Et l'expérience au Japon, c'était, il y avait une expérience avec des sphères, des photomètres et enfin un dispositif expérimental, et avec un réacteur nucléaire d'un autre côté qui envoyait les neutrinos et on mesurait. Ces neutrinos-là, on mesurait le manque de neutrinos d'un certain sexe, je dirais.
Oui. C'est la saveur des neutrinos. C'est ça, c'est le terme qui est employé, voilà, qui fait l'objet donc de ce prix Nobel de physique. Allez, on se retrouve tous dans un instant pour cette tête au carré exceptionnelle en direct de l'Observatoire de Haute-Provence. High by the Beach, Lana Del Rey sur France Inter.
La tempête.
Pas le moindre signal radio sur Onde Côte jusqu'à présent.
Carré.
Rien encore, commandant. Liaison radio, on entend une voix ici.
Mathieu Vidard.
Humaine, on dirait. Poussez le son.
Sur France Inter.
Avec un anniversaire exceptionnel qui a changé d'une certaine manière la face du monde, c'est la découverte de la toute première exoplanète en octobre 1995. Michel Mayor, Didier Queloz, leurs découvreurs sont nos invités, avec également Anne-Marie Lagrange, Auguste Levent-Dessus, le responsable de cet observatoire de Haute-Provence, et mon confrère Philippe Hénarejos. Alors Michel Mayor, nous revenons 20 ans en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé ici, dans cet endroit où nous nous trouvons aujourd'hui, en octobre 95?
Eh bien, il y a exactement 20 ans, rien du tout, puisque nous étions à ce moment-là à Florence, à une conférence dédiée aux petites planètes, aux petites étoiles comme le Soleil, où nous avons fait avec Didier l'annonce de la découverte qui s'était faite dans les mois qui précédaient. Oui. Et c'est juste ici même, dans cet observatoire.
Donc annonce que vous avez gardée secrète pendant quelques temps, évidemment. Il fallait prouver véritablement que votre découverte était exacte, qu'il n'y avait pas d'erreur.
Oui, parce que là, les premiers signes de quelque chose d'anormal autour de cette étoile, eh bien, venaient en fin de l'année 94.
Oui.
Mais il fallait être sûr que le phénomène physique était bien un compagnon planétaire. Il y avait d'autres possibilités physiques qu'on pouvait imposer liées à des taches sur l'étoile, etc. Et donc, on a voulu jouer la sécurité. On a attendu la saison suivante. Et en juillet, la première semaine de juillet 95, nous avions de nouveau accès au télescope, parce que c'est pas automatique, hein, on peut pas arriver comme ça. Et à ce moment-là, après une semaine, eh bien, les mesures confirmaient ce qui avait été observé l'année précédente. À ce moment-là, on y a cru et on a rédigé le papier. Et évidemment, on avait on avait envie de garder le secret pour voir qu'un objet qui était très particulier. Donc il fallait vraiment faire attention. Avec 4 jours de période, un autre groupe qui avait un instrument adéquat pouvait fort bien nous brûler la politesse.
Oui, on va y revenir sur ces 4 jours de période dont vous parlez. On va le préciser évidemment dans un instant. Donc en juillet, en fait, vous êtes au courant, hein, vous avez compris que vous aviez fait cette découverte. Elle n'est annoncée qu'en octobre de la même année. Donc ici, vous êtes en train de passer quelques temps en Haute-Provence et vous fêtez cette découverte déjà en juillet entre vous. C'est ça, avec Didier Queloz?
Oui, parce que on était ici donc à l'Observatoire de Provence avec notre famille, et quand on a eu la confirmation que c'était vraiment l'hypothèse la plus crédible, eh bien évidemment on a fait des folies avec la clairette de Die,
voilà,
une tarte aux framboises. C'était pas des caramels mous capitaine de l'ordre de Tournesol. Hein.
Ouais. Donc il fallait que tout le monde garde secret, votre propre famille aussi d'ailleurs. Hein.
Oui, tout à fait. Oui.
Ouais. Et je crois que votre fils était au courant.
On a hésité si on devait le sacrifier, puis quand même on l'a gardé.
Voilà. Didier Queloz, quel souvenir vous gardez-vous d'ailleurs de cette période de silence avant la révélation donc au monde entier en octobre, le 6 octobre 95?
Bon, moi j'ai un souvenir extraordinaire de cette période parce que c'est une période qui est de transition pour l'ensemble de nos travaux. On met en place un instrument qui est tout neuf, qui est révolutionnaire. On commence un programme et quelque part, même pas une année après, on fait une découverte qui allait bouleverser l'astronomie. Donc vous pouvez imaginer le nombre d'étapes, d'émotions, d'événements que nous avons traversés, d'abord dans la construction d'instruments et puis ensuite après jusqu'à son annonce. Donc pour moi, ça reste un événement qui quelque part a transformé ma vie.
Avec des étapes d'incertitude également pour vous, Didier Queloz, hein?
Oui, alors ce qu'il faut bien réaliser, c'est qu'aujourd'hui, on voit des planètes dans la presse, on parle de Terre, on parle de milliers de planètes, donc tout ceci est devenu quelque part presque banal. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de planète. La seule vague planète qui avait été trouvée, c'était autour d'un objet bien étrange qui est un pulsar, qui finalement n'était pas très très connu et du jour au lendemain, voilà, on a quelque chose. En plus, cet objet, il est parfaitement anormal au sens qu'il n'y a pas d'équivalent dans le système solaire. Donc, vous pouvez bien imaginer les premières réactions qu'on a eues, les doutes qu'on est par lesquels on a dû passer pour se convaincre. Bah, d'abord, c'était réel, c'était pas juste le fruit de notre imagination ou de choses qu'on ne comprenait pas. Et puis en plus, bah, que ça avait un quelconque rapport avec une planète et c'était pas autre chose. Donc c'était vraiment une épreuve ou une sorte de traversée de plusieurs phases avec des hauts et des bas qui allaient nous mener à Florence, à cette annonce qui d'ailleurs, je pense, pour une partie de la communauté a été une surprise absolue et a probablement été relativement, je suis pas sûr que les gens aient vraiment cru à l'existence de cette planète depuis le jour où on l'a annoncée.
Oui, alors la raison principale est la suivante, puisque Michel Mayor le disait tout à l'heure, c'est une planète donc qui fait deux fois la taille de Jupiter et surtout qui effectue sa révolution autour de son étoile en 4 jours à peu près, Michel Mayor, c'est ça? Alors qu'on pensait qu'elle mettait 10 ans à le faire.
Oui, c'est ça. Ça a été une grande surprise, parce que c'est une des raisons pourquoi on a été extrêmement prudent, c'est le fait que la théorie de la formation des planètes géantes comme notre Jupiter impliquait des conditions telles que la période minimum devait être de 11 ans à peu près. Tout allait bien dans le système solaire, ça allait. Par contre, là, on trouve un objet qui a une période qui est 1000 fois trop courte. Ouais. Il y avait un désaccord qui n'était pas d'un détail, c'était énorme. Et donc, on n'y croit pas. Est-ce que c'est pas un autre phénomène physique? Donc, ça justifiait totalement la prudence avec laquelle on a avancé. Ouais. Mais peut-être j'aimerais revenir à un tout petit point et profiter quand même de rendre le crédit à tout le groupe de l'observatoire qui a construit cet appareil. C'est pas une opération de une personne ou deux, c'est le résultat d'un groupe de 12 ou 15 personnes. Du reste, on les a retrouvés hier soir avec énormément de plaisir, oui. Comme ça. C'est parce qu'il y a des informaticiens, il y a des ingénieurs mécaniciens, et surtout, je mentionnerai qu'un nom, c'est celui d'André Baran qui a créé l'optique, une optique remarquable qui a permis cette découverte aussi. Oui. Voilà, donc c'est juste un petit coup de chapeau nécessaire.
Philippe Hénarejos, il y a 20 ans, on supposait qu'il y avait d'autres planètes dans le système solaire, mais on n'avait encore jamais mis la main dessus.
Ben voilà, il y a 20 ans, on était dans une situation extrêmement différente de celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que on supposait, comme on le fait aujourd'hui pour la vie dans l'univers, on se dit, ce serait bien le diable s'il n'y en avait pas, on supposait qu'il y avait des planètes ailleurs, autour d'autres étoiles. Sauf qu'on n'en avait pas la preuve. Le seul indice qu'on avait, qui était vraiment sérieux, c'est un astre que Anne-Marie Lagrange connaît bien, qui est l'étoile Beta Pictoris, autour de laquelle on voyait un disque qui semblait être un système planétaire en formation. On étudiait cet objet, il était assez unique, et on n'avait rien. Et donc, on avait beau avoir des convictions, il fallait une preuve. Et cette preuve est arrivée avec cette découverte, et ça n'a pas simplement été cette chaîne qui s'est brisée, cette découverte-là. Ça a été aussi la porte ouverte à une dérégionalisation extraordinaire de notre savoir sur les planètes. Comme le disait Michel Mayor, cette planète ne devait pas se trouver là. Elle ne devait pas tourner en 4 jours. Elle devait mettre 10 ans parce que nos modèles de formation des planètes de type Jupiter stipulaient qu'il fallait qu'elle soit à une certaine distance sous le Soleil où il y aurait assez de matière pour qu'elle se forme, etc. Et là, on a tout d'un coup la première planète qu'on trouve autour d'une étoile semblable, à peu près similaire au Soleil, ben, c'est un extraterrestre. Elle ne ressemble à rien de ce qu'on imaginait. Il a fallu que les théoriciens aillent ressortir d'anciens travaux pour voir comment on pouvait avoir cette planète-là, puisqu'elle était bien là.
Ouais. Et donc cette planète est très proche de son étoile, ce qui fait qu'elle est... Bon, il y a une certaine distance, mais enfin, elle est quand même quasiment scotchée à son étoile, Michel Mayor,
oui.
Non?
Je crois que la distance est à peu près de 8 fois le rayon de l'étoile. C'est-à-dire que c'est extrêmement proche. Ouais. On n'a aucune planète dans le système solaire, encore moins des planètes géantes, qui sont si proches de leur étoile. Donc, corollaire immédiat, la température dans l'atmosphère de cette planète est absolument insupportable. Plus, nettement plus de 1000 degrés centigrades. Ouais. Donc, ça veut dire que, OK, on ne pense pas à une vie possible. On est bien d'accord. C'est une boule de gaz chaud.
Ouais. On va écouter les commentaires des journalistes. Parce qu'évidemment, il y a cette conférence de Florence. Hein, et le 9 octobre 95, sur l'antenne même de France Inter, on discute énormément autour de votre découverte. Certains l'acceptent, d'autres beaucoup moins bien. Il y a beaucoup de scepticisme quand même autour de cela. Alain Ciroul, rédacteur en chef de Ciel et Espace. Georges Schneider, qui est astrophysicien. Et le tout au micro de Gilbert Denoyon.
on suppose que c'est une planète. Mais quand on regarde dans le détail ce que disent les Suisses, et pour l'instant, il faut bien avouer qu'ils n'ont pas encore publié leur article. Donc, ce sont simplement des informations...
On va donner leur nom. Ils s'appellent Michel Meilleur et Didier Queloz.
C'est ça, voilà. Ils n'ont pas encore fait la publication scientifique. Donc, il faut attendre qu'on ait les éléments scientifiques pour en discuter. Mais simplement, ce qu'il faut imaginer, c'est que la planète qu'ils supposent avoir découverte est une planète de la taille de Jupiter. 10 fois la taille de la Terre. Jupiter, c'est une, la plus grosse planète du système solaire. Qui tournerait en 4,2 jours autour de l'étoile, c'est-à-dire très très près. Elle serait à moins de 10 rayons de l'étoile, si vous voulez. C'est-à-dire qu'elle serait vraiment très 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 près. Et ça, ça nous laisse supposer qu'il peut y avoir un petit problème, parce que figurez-vous qu'on connaît pas bien les étoiles.
Vous avez pas l'air, vous, de... Alors, Jean Schneider a l'air d'y croire assez fort, là, vous allez nous préciser votre pensée, tandis que Alain Siroux, bon, il est plutôt sceptique, là, il me semble.
Non, effectivement, il est certain qu'on a un objet de l'ordre de la masse de Jupiter. Ce qui n'est pas sûr, c'est que ce soit une planète. Ça peut être une micro-étoile.
Voilà, donc Michel Meilleur, certains doutes hein, quand même de votre découverte.
Ah oui, tout à fait. Et ces doutes se sont poursuivis pendant plus d'une année. Il y a eu des articles publiés dans Nature, du reste, qui émettaient pas des doutes, qui affirmaient qu'il n'y avait pas de planète. Que c'était une pulsation, etc. Donc on a dû se battre pendant 2 ans pour convaincre la communauté de nos collègues. Et en fait, je crois que l'événement décisif qui a été convaincant, c'est quand on a pu voir passer une planète devant une étoile, ce qu'on appelle un transit, qui depuis lors a donné des quantités de nouveaux résultats. Mais le premier transit a été découvert à la fin de 99, et ça a été l'événement qui a convaincu les derniers.
Oui, donc il a fallu quand même quelques années, hein, après l'annonce.
Oui, mais quand même, la majorité de nos collègues y croyaient, parce que, entre-temps, entre 95 et 99, il y a eu quand même, je sais pas combien, plusieurs dizaines d'autres planètes découvertes, donc quand même, ça devenait impossible de nier leur existence. Ouais.
Anne-Marie Lagrange, racontez-nous, vous, en 95, lorsque vous entendez l'annonce de Michel Meilleur et Didier Queloz, comment vous recevez, justement, cette découverte?
Bon, alors, moi, en fait, j'étais un petit peu au courant, un petit peu avant, parce que il se trouve que je venais beaucoup observer à l'Observatoire de Haute-Provence. J'embêtais déjà beaucoup Michel et ses collègues pour essayer d'observer mon étoile favorite avec cette technique dont on parlera peut-être. Donc, je savais qu'il y avait une planète qui avait été détectée. Donc, je n'ai pas été surprise. Mais en revanche, j'ai été très, très heureuse d'apprendre cette détection et surtout d'apprendre que, comme on l'a dit, la période de la planète était de 4 jours, parce que pour moi, ça voulait dire qu'il fallait s'attendre à plein de choses sur les exoplanètes et qu'on était loin d'être capable de tout imaginer.
Ouais, et c'est ce qui s'est passé avec la découverte des 2000 suivantes, hein, voilà. Avec cette diversité planétaire extrêmement incroyable. Auguste Levent-Dessus, il faut décrire l'endroit où on se trouve et il faut décrire donc ce télescope qui a permis cette découverte, qui est un très bel engin, 2 mètres de diamètre et puis à peu près une dizaine de mètres de longueur et qui est braqué là vers le ciel.
C'est un télescope qui a été construit dans les années 56 et mis en service en 58. Depuis cette date-là, il travaille 362 jours par an. Pardon, 362 nuits par an.
Ouais.
Et en fait, c'est un des 2 grands télescopes que nous avons en France, des 2 mètres, la classe des 2 mètres. C'est considéré comme un petit télescope, mais nous avons derrière ce télescope un moteur de Ferrari qui s'appelle les spectrographes Sophie maintenant, mais Elodie à l'époque, qui faisait que le couple était très performant au niveau dans la compétition internationale, qui reste performant dans la compétition internationale. Donc on a l'impression d'être dans Tintin et l'étoile noire.
Ah oui, vraiment.
C'est avec une structure métallique. Ça ne ressemble en aucun cas au nouveau télescope qu'on construit actuellement. Ouais. On est en train de construire jusqu'à des 39 mètres de diamètre de télescope. Enfin, on espère pouvoir le construire bientôt, le finir. Mais en fait, il y a différents types de télescopes. Hein, mais ce télescope-là va être beaucoup dédié à l'étude des exoplanètes.
Oui.
Principalement, 90% de son temps est dédié à l'étude des exoplanètes. Oui. Les autres télescopes ont d'autres applications ailleurs. Nous, on dédie ce télescope-là à cette science-là.
Philippe Hénarejos, c'est vrai qu'on est encore dans un modèle un peu ancien, là, pour le coup. Hein.
Oui,
on a des télescopes beaucoup plus modernes.
Et en plus, c'est un monument historique.
Oui.
Si vous voulez, la coupole dans laquelle nous nous trouvons, elle est gigantesque par rapport au télescope. À l'époque, il fallait faire des montures équatoriales avec des contrepoids énormes pour un télescope de 2 mètres seulement. Oui. Aujourd'hui, dans des coupoles comme ça, on met des télescopes de 10 mètres. Du coup, ça lui donne quand même une aura assez exceptionnelle. Et puis, surtout, il a beau être âgé... comme on a dit à l'instant, il suffit d'y mettre un bon instrument, et l'instrument qui avait été conçu déjà à l'époque était vraiment très performant, et il a permis de découvrir la première planète, parce que justement cet instrument permettait d'analyser quasiment en direct ce qu'on voyait. Et ce que Michel Mayor n'a pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y avait une équipe concurrente américaine de Geoff Marcy à Berkeley qui faisait la même chasse aux exoplanètes et qui n'analysait pas en temps aussi réel, et notamment parce qu'on ne pensait pas à pouvoir trouver des planètes qui tournaient en aussi peu de temps. Et donc cette course de vitesse a été gagnée par l'équipe suisse, justement parce que cet instrument était performant, parce qu'il permettait d'analyser tout de suite ce qu'on voyait et de déduire que, contrairement à ce qu'on pensait, oui, il y a des planètes qui tournent en quelques jours autour d'une étoile et non pas en des dizaines d'années. Ouais. Et d'ailleurs, quand on parlait tout à l'heure de la polémique, enfin des doutes, il y a quand même une belle confirmation qui est arrivée quasi instantanément, c'était celle de l'équipe concurrente. Geoff Marcy est allé voir dans ses données, puisqu'il savait où chercher, il regardait la même étoile, il en regardait d'autres, il a dit « Ah ben moi j'ai celle-là, je la confirme, mais j'en ai d'autres aussi qu'il n'avait pas vu. » Donc c'était une confirmation éclatante.
Ouais. Didier Queloz, vous êtes thésard à l'époque ?
Oui, absolument. Je finissais en fait ma thèse. C'était la fin. J'avais commencé plus de 4 ans avant, et la mise en place de l'instrument, le début du programme était en quelque part l'aboutissement de la thèse.
Ouais. Et vous jouiez votre thèse aussi dans ce que vous affirmiez. C'est ça. Vous avez été quand même très inquiet au départ, hein, des résultats que vous avez trouvés.
Ouais. C'est vrai qu'il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, parce que évidemment, comme sujet de thèse, je n'avais pas comme objectif de trouver des planètes. Ça aurait été complètement suicidaire de la part d'un professeur, irresponsable de la part de Michel de le faire, parce que personne n'imaginait qu'on allait trouver une planète d'une manière aussi facile et aussi rapidement. Elle était à participer à la mise en place de l'instrument et développer son système de réduction, et puis de démarrer d'autres programmes qu'on a fait d'ailleurs avec cet instrument qui a fait beaucoup d'autres choses. Mais il s'est avéré que en fin de thèse, voilà, je commence le programme, et vous pouvez imaginer ma surprise au moment où quelque part une étoile banale qui était censée avoir une vitesse constante s'est mis à varier de manière au début que je pensais complètement aléatoire. Et finalement, j'ai vraiment pensé qu'il y avait un gros problème avec l'instrument ou avec mon software ou avec quelque chose que je faisais saut. Donc c'est devenu vraiment quelque part une situation un peu stressante parce que je réalisais que tout le travail que j'avais fait, ben finalement cette étoile c'était la preuve qu'il y avait quelque chose de vraiment faux à l'intérieur de cette machine. Maintenant en se convainquant qu'il y avait une logique, qu'il y avait peut-être une planète qui était à l'origine du phénomène, j'ai eu des moments, et c'est vrai que j'ai eu quelques moments de panique, surtout avant l'annonce de Florence, quand je me disais à moi-même, mais en fait, cette planète, elle ne tient que parce qu'on a des données de vitesse radiale, une vingtaine de points de vitesse. Sans ces points-là, elle n'existe pas. En plus, elle n'est même pas du tout attendue. Et puis finalement, ces vitesses, elles sont produites par un software qui est complètement nouveau, que j'ai écrit. Donc, si j'ai fait une erreur, je suis mort. Parce que finalement, tout le monde va dire c'est n'importe quoi. Alors, pour imaginer que le soulagement que j'ai eu quand Geoff Marcy, quelques jours après, a confirmé les mesures, il a retrouvé les mêmes mesures. Donc, à ce moment-là, pour moi, c'était que par un soulagement incroyable, en train de me dire, si les points de mesure sont vrais, les mesures sont vraies, l'instrument fait des vraies mesures. Après, on peut toujours débattre l'origine du signal, qui a été d'ailleurs très critiqué les années qui ont suivi, mais on ne pourra pas débattre la réalité des mesures.
Ouais, et Michel Mayor, c'est donc une contradiction, en tout cas, que vous faites à toute la science de l'époque, hein, c'est ça, avec cette découverte.
Oui, cette planète, avec une période aussi courte, immédiatement, comment dire, poser la question, quel est le phénomène physique qui permet d'expliquer? Et en fait, paradoxalement, la réponse existait déjà dans la littérature. Il y avait deux physiciens, des grands noms de l'astronomie américaine, Peter Goldreich et Scott Tremain, qui avaient déjà, 15 ans avant, analysé ce genre de problème, mais dans un contexte différent. En fait, ils étudiaient le problème de n'importe quel corps plongé dans un disque. Et ça pouvait être aussi bien une petite galaxie piégée dans le disque de notre galaxie ou un problème d'exoplanète. Et à l'époque, personne n'y a cru. Personne n'y a cru. Pourquoi? Parce qu'il semblait que le phénomène était beaucoup trop extrême, trop violent. Mais dans le résumé de leur papier, il est mis explicitement « Jupiter n'est pas né à l'endroit où il se trouve maintenant ». Mais personne n'en a tiré les conséquences. Et au contraire, eh bien, il y a eu un papier publié en début 95 disant les méthodes de vitesse radiale n'est pas la bonne méthode pour découvrir des planètes. Pas justement, on pensait qu'elles avaient des longues périodes.
Allez, on se retrouve dans un instant depuis l'Observatoire de Haute-Provence. Nous sommes en direct, le temps d'écouter les eaux de Mars. Georges Moustaki, bon après-midi sur France Inter.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie. C'est le souffle du vent au sommet des collines. C'est une vieille ruine, le vide et le néant. C'est la pluie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine. Un reste de racine, c'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose. Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou. C'est la fièvre qui monte, c'est un compte à bon compte. C'est un peu rien du tout, un poisson, un geste. C'est comme du vif argent, c'est tout ce qu'on attend. C'est tout ce qui nous reste, c'est du bois, c'est un jour. Le bout du quai, un alcool trafiqué, le chemin le plus court, c'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé, la voiture rouillée, c'est la boue, un pas, un pont, un crapaud qui croasse, c'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon, c'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. Un serpent qui attaque, une entaille au talon. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine. Un reste de racine, c'est un peu solitaire. C'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison. C'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars. La promesse de vie, le mystère profond. Ce sont les eaux de Mars, dans ton cœur tout au fond. Par et père, et on finit de camille. Et un reste d'itoc, et un poco sozinho. Par une pierre, chemin qui chemine, reste de racine, c'est un peu solitaire. Par une pierre, chemin qui chemine, reste de racine, c'est un peu solitaire.
Était authentifié, hein, la vie de cette appelons la planète, hein. Bon, en gros, est-ce que ça remet en cause si jamais cette découverte des deux Suisses est prouvée, s'ils en font la démonstration, ils vont peut-être la faire là au congrès de Florence qui s'est ouvert, je crois ce matin ou non vendredi. S'ils en font la démonstration, bon, je veux dire, il va falloir tout remettre à zéro.
Non, parce que le sentiment général des astronomes, c'est qu'il doit bien exister beaucoup d'autres systèmes planétaires que le nôtre. Si on ne les a pas vus, c'est simplement qu'ils sont très difficiles à détecter.
Ouais. Est-ce que ça veut dire que là, c'est le point de départ vers une extrapolation? Il y a donc ce système solaire. Ça veut dire qu'il n'y en aurait pas que deux, il y en aurait d'autres, et ça devient une certitude.
Ah, mais moi, je suis persuadé que c'est le début d'une très grande aventure qui va durer maintenant des décennies.
Ouais.
Voilà ce qu'on se disait en 1995. Ça discutait beaucoup, hein, également sur l'antenne de France Inter autour de votre annonce. Donc, Michel Mayer et Didier Queloz, après donc la découverte de cette toute première exoplanète. Nous sommes donc en direct de l'Observatoire de Haute-Provence, un site du CNRS, où se trouve donc ce télescope qui vous a permis de pointer vos yeux vers ce nouveau monde. Et nous sommes avec le public également ici qui nous a rejoint. Je crois qu'il y a un scientifique. Vous êtes probablement parmi l'équipe de scientifiques qui travaille cette semaine au niveau du colloque. Bonjour.
Pas du tout, je suis juste un amateur.
Eh ben très bien. Bienvenue à vous, on écoute votre question.
Oui, j'aurais souhaité savoir quelles sont les grandes interrogations actuelles autour des exoplanètes, quelles sont les recherches associées à ces questions. Et peut-être ma deuxième question serait savoir quelles sont les recherches actuelles qui se passent au sein de l'Observatoire de Haute-Provence et quelles seront peut-être les prochaines grandes découvertes.
Ah, alors ça fait beaucoup de questions mais qui nous intéressent toutes. Alors Anne-Marie Lagrange pour répondre à la toute première.
Alors oui, les grandes questions qui se posent aujourd'hui, auxquelles on n'a pas encore de répondu totalement, c'est comment les planètes et les systèmes planétaires se forment, comment ils évoluent, comment à partir de gaz et de poussière, on arrive à former des planètes aussi gigantesques que 51 Pégase ou même des planètes encore plus grandes. On a envie de comprendre aussi la diversité des systèmes planétaires parce que depuis 20 ans, en fait, depuis 51 Pégase B, on voit que la nature est très très variée. On a des planètes, certaines sont vraiment très très bizarres. On veut comprendre, on veut explorer toute cette diversité. Et le troisième point, c'est chercher des planètes. On veut caractériser ces planètes aussi, savoir de quoi est faite leur atmosphère, etc. Mmh. Trouver aussi des planètes de masse de plus en plus petite, chercher éventuellement des analogues à la Terre et un jour chercher des signatures de vie aussi.
Ouais. Mais Michel Mayer, on a l'impression qu'on nous annonce tous les trois mois justement qu'on a découvert une planète ressemblant fortement à la Terre. Il y a des effets d'annonce réguliers, du coup on s'y perd un petit peu là.
Oui, il y a au moins 10 papiers qui disent on a découvert la première planète dans la zone habitable.
Vous êtes d'accord?
Oui, il y a nettement une surenchère.
Il y en a une vraiment ou pas, alors, qui nous intéresse particulièrement?
Non, il y en a des quantités, simplement il n'y en a pas qui ont tous les avantages qui ont été autour des étoiles de type solaire, il n'y en a encore aucune. Malgré les annonces faites qui ont été faites récemment, il n'y en a encore aucune. Comment dire, la dernière qui a été annoncée il y a deux mois, eh bien, faisait état d'un objet de 5 fois la masse de la Terre. 5 fois la masse de la Terre, ça pose des grandes différences en termes des conditions d'habitabilité à la surface. Ouais. Alors, la température, oui, elle est à la bonne distance, c'est tout ce qu'il faut, mais elle est en plus, elle est à 1400 et quelques années-lumière. Alors, si on veut faire des études ultérieures pour trouver des biomarqueurs, santé, hein, je vois pas comment on va le faire.
Hein. Ouais.
Alors, comment dire, je crois que si on s'intéressait à des objets extrêmement proches de nous, trouver des mêmes planètes que ça, mais autour d'étoiles très proches, oui, ça serait absolument fantastique.
Ouais. Philippe Hénarejos.
Oui, ce qui marque aujourd'hui, c'est cette diversité des exoplanètes. On trouve des planètes qui sont des Jupiter très géantes, des moins que de Jupiter, des Neptunes, des petites Neptunes, des planètes océans, des planètes surchauffées, des planètes gelées, des super-terres, des planètes qui commencent à avoir la masse de la Terre, mais qui ne se trouvent pas forcément au bon endroit. Mais malgré tout, dans tout ça, alors bon, d'abord une chose, les planètes terrestres ou apparentées, elles sont quand même encore minoritaires, tout simplement parce qu'elles sont petites, elles sont quand même difficiles à trouver, et donc on a fait des projections que quand même ces planètes-là devraient être légèrement majoritaires, ouais. 51%, mais on verra bien ce que donneront les détections. Et ensuite, malgré toute cette diversité dont on fait état dans notre dossier dans Ciel-Espace actuellement, eh bien, on n'a toujours pas trouvé non seulement une planète qui est comme la Terre, mais je dirais même que moi, il me manque toujours, c'est la question que j'ai à poser à nos invités, c'est où est un autre système planétaire qui ressemblerait vraiment, je ne demande pas un jumeau, mais qui ressemblerait vraiment au nôtre. Pour l'instant, sommes-nous unique, le système solaire, ou est-on simplement, on ne l'a pas trouvé encore?
Oui. Alors, unique ou banal
On n'en sait rien. On n'en sait rien parce qu'on n'a pas les capacités aujourd'hui de les détecter. C'est tout simple.
Didier Queloz, sur cette question, effectivement, est-ce qu'on va trouver un système solaire vraiment identique au nôtre, ou est-ce que ça va être vraiment très difficile dans les prochaines années?
question.
Didier Queloz.
C'est une bonne question. Si je pouvais y répondre. Ceci cependant, il y a quand même deux, trois choses que l'on a appris au cours de ces 20 dernières années. C'est que il y avait une diversité absolument étonnante, tant dans sa forme de structure, de taille, de manière de s'organiser, qui est différente de celle de notre système solaire, qui est observée sur d'autres étoiles. Donc maintenant, la perception se dirige plutôt vers une sorte de phénomène semi-aléatoire. Vous savez, c'est un peu comme la météorologie. Vous êtes très bon à prédire à un jour, ça dépend un peu des endroits, mais vous êtes, c'est impossible de prédire le temps qu'il va faire dans une année. Donc c'est la complexité des phénomènes, tous les éléments qui peuvent intervenir lors de la création d'un système planétaire sont tels que finalement l'ensemble des possibles est vraiment très important. Donc bien sûr qu'il existe des systèmes extrêmement semblables au système solaire, simplement c'est un parmi des milliers. Mais la question principale derrière qui va se cacher, c'est lesquels pourraient être plus intéressants pour chercher de la vie. Et là, la question est vraiment très difficile parce que on a tendance à extrêmement simplifier le problème pour des raisons évidentes, c'est qu'on n'est pas capable d'en dire grand-chose. La seule chose qu'on peut vaguement calculer, c'est la distance entre nous et puis l'étoile. Mais pour répondre à une question de voir si une planète a de la vie, c'est beaucoup plus compliqué. D'abord, il faudrait pouvoir identifier des éléments qui nous font sans y aller, qui nous permettraient de dire qu'il y en a. Et puis en plus, imaginons qu'on n'est même pas capable de faire ça, il faudrait avoir une bonne connaissance de la structure de son atmosphère, de sa structure géologique, de son évolution géologique, tous ces phénomènes interviennent. Donc je pense que c'est un long chemin, peut-être qu'on va y arriver, je pense qu'on va y arriver, mais je crois qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur le système solaire comme étant l'unique exemple possible, mais comme étant un exemple parmi tant d'autres, et que finalement la question de la vie est une question plus vaste, qu'on peut aussi aborder dans nos laboratoires, qu'on peut aussi aller chercher dans le système solaire, de manière complémentaire à ce qui se fait en astronomie.
Est-ce qu'on pourrait découvrir ce système solaire depuis l'Observatoire de Haute-Provence, Auguste Leventu?
Il faudrait, comme disait Anne-Marie, des instruments beaucoup plus performants que ceux que nous avons actuellement,
oui,
que nous aurons.
Michel Mayor, cette question en tout cas de la vie en dehors de notre système solaire, elle est centrale aujourd'hui, elle est toujours présente dans la tête évidemment des chercheurs, des exobiologistes en particulier. À combien on estime le nombre de planètes là aujourd'hui actuellement dans notre Voie lactée, rien que dans notre Voie lactée? On en a découvert 2000, mais on peut extrapoler quand même.
Écoutez, si on a fait une étude de plus de 10 ans avec un spectrographe exceptionnel au Chili.
Ouais.
Et on a fait de la statistique sur tout ce qu'on a trouvé. On avait poussé la détection la meilleure qu'on peut. Mais toutes les plus légères, justement celles de la masse de la Terre, on ne les découvre pas. Donc on est obligé de recourir à des extrapolations, comme le satellite Kepler, qui a fait du reste qui mesure des rayons et non pas les masses, comme ça. Donc actuellement, eh bien, la seule chose qu'on peut dire, tous les modèles de formation planétaire nous disent, les petites planètes, c'est les plus faciles à former.
Oui.
Donc, il doit y en avoir un nombre incroyable. Alors, déjà, la statistique actuelle nous dit qu'il y a peut-être 70% des étoiles, comme le Soleil, qui ont des systèmes planétaires.
Oui.
Mais c'est une sous-estimation.
Oui.
C'est
évident. On parle de 100 milliards, il y a un chiffre qui est avancé.
Oui, 100 milliards.
100 milliards de planètes.
100 milliards, hein. C'est un très bon chiffre.
Bon.
Oui.
Anne-Marie Lagrange, est-ce qu'on a la photographie de cette toute première exoplanète Pegasi B ou pas, alors?
Non, on est très très loin de la voir. En imagerie directe, où on fait, comme vous dites, des photos des planètes,
oui,
on n'est pas capable d'aller aussi près des étoiles que ce que font les méthodes des vitesses radiales, les méthodes indirectes.
Oui.
Et c'est en ça que l'imagerie est très complémentaire, justement, des méthodes indirectes, comme les vitesses radiales ou le transit. Nous, on observe des étoiles qui sont plutôt plus loin, des planètes qui sont plus loin de leur étoile, on arrive aujourd'hui à descendre à peu près dans la région où se trouvent les planètes géantes du système solaire. Donc, quelquefois, la distance de la Terre au Soleil.
Oui. 51 Pegasi B, Michel Mayor, elle est à quelle distance alors de la Terre?
La planète 51 Pegasi B, elle est 20 fois plus proche de son étoile que la Terre n'est du Soleil.
Mmh.
Mais maintenant,
le
système lui-même, c'est à peu près 50 années-lumière.
Et ça fait combien, ça, en nombre de kilomètres, pour avoir une idée?
50 années-lumière...
Une année-lumière,
c'est... La lumière met environ 30 millions de secondes par an, donc là, 300 000 kilomètres, comme ça. À la louche, disons, sans faire le calcul, l'ordre de 1 milliard de fois la distance du Soleil, de la Lune.
Bon, ben voilà. Donc, ouais. 350
kilomètres.
Voilà,
on y va.
Un petit peu, voilà. Mais le problème, c'est qu'on n'aura pas les moyens d'y arriver comme ça. Nous, non. En tout cas, les humains. Hein.
Il faut oui, bien se rappeler que, pour, comment dire, oui, les grands optimistes qui disent oui, alors on va accélérer pour y aller.
Ouais.
C'est absolument pas vrai. L'énergie que vous devez dépenser pour accélérer, elle est complètement irréaliste.
Ouais.
Donc, non, on peut détecter la vie, peut-être, à distance, en analysant la chimie des atmosphères, mais il n'est pas question d'y aller.
Ouais. Et alors, justement, Anne-Marie Lagrange, vous avez un moyen de détecter directement les planètes ?
Voilà, alors nous on a un moyen d'observer et de détecter directement les planètes, c'est-à-dire de voir un tout petit signal, parce que les planètes sont très très peu brillantes,
oui.
À côté des étoiles qui sont elles très brillantes. Ce moyen, ça s'appelle la coronographie. En quelque sorte, on cache la lumière de l'étoile pour pouvoir voir celle de la planète. Or, pour pouvoir faire ça, cela dit, il faut s'affranchir des perturbations de l'atmosphère. Donc en fait, on arrive à des systèmes très très complexes en fait, dans lesquels on couple ce qu'on appelle de l'optique adaptative qui corrige des perturbations atmosphériques et de la coronographie qui va éteindre la lumière des étoiles.
Et c'est ce qui vous a permis de nous montrer Beta Pictoris B par exemple,
hein? Par exemple, oui. Et donc Beta Pictoris B, effectivement, c'est une planète qu'on prédisait depuis les années 95 justement, et qu'on n'a pas réussi à voir. On a réussi à la détecter dans les années 2000, et c'est aujourd'hui la seule planète extrasolaire que l'on voit tourner autour de son étoile. C'est très émouvant de voir une planète tourner autour de son étoile. C'est la seule pour l'instant.
Ouais.
C'est une planète très très massive, hein, qui fait 8-10 fois la masse de Jupiter.
Ouais. Philippe Hénarejos, là aussi, c'est une découverte très importante qu'a réalisée Anne-Marie Lagrange.
Oui, absolument, parce que c'est quand même bien quand on les voit, les planètes. Et celle-là, on la voit bien. Mais c'était pas évident, parce qu'en plus, elle est noyée dans un nuage de poussière et de roches qui diffuse beaucoup. Donc, mm-hmm. Il a fallu une technique très complexe et très pointue pour y arriver. Mais cette planète, on attend beaucoup d'elle, parce qu'elle tourne autour de son étoile, mais nous nous situons, nous, à peu près dans le plan dans lequel elle tourne. C'est-à-dire qu'en la voyant se déplacer, et récemment, il y a quelques semaines, il y a eu des images qui ont été faites avec un télescope Gemini à Hawaï et qui ont montré le léger déplacement de cette planète. Alors, Anne-Marie Lagrange, elle avait montré tantôt d'un côté, tantôt de l'autre de son étoile. Donc, on voyait déjà le déplacement, mais là, on l'a vu de manière plus pointue. On va, je l'espère, pouvoir prédire à quel moment cette planète va se trouver entre nous et son étoile et peut-être, si on a un peu de chance, occulter légèrement son étoile, mm-hmm. pour qu'on voit la lumière baisser et pour qu'on puisse faire d'autres mesures. C'est-à-dire qu'on aurait deux moyens de détection pour étudier cette planète, ce serait formidable.
Alors, Michel Mayor, Didier Queloz également, la vie ailleurs dans l'univers. Alors, pour vous, vraiment, là, je vous interroge à titre personnel, quel est votre sentiment sur cette question, Michel Mayor? Vous êtes plutôt favorable et optimiste?
Peut-être bac, oui.
Oui, hein. Plutôt que bac, non.
Non, ouais. Non, attention, il y a deux réponses à cette question. Il y a la réponse du scientifique, qu'actuellement, dans le laboratoire et la théorie, on est incapable.
C'est pour ça que je la pose à l'homme,
voilà,
l'homme, l'homme Michel Mayor.
Donc la réponse, scientifiquement, la seule manière de
pour
faire,
l'instant, y a pas de
on
problème.
Observe.
Ouais.
On fait ce qu'il faut faire pour la détecter. Si vous pensez à moi, en tant que Pékin moyen, eh bien, c'est simplement, moi je dirais que je suis très confortable avec l'idée que la vie est un phénomène naturel qui se développe dans l'univers, quand les conditions sont là. Alors les conditions peuvent être très complexes, ça c'est différent,
ouais.
Mais pour moi, je vis très bien avec l'idée que je suis une sorte de sous-produit de l'évolution de la naturelle.
Et que nous sommes loin d'être seuls dans l'univers. Hein.
Exactement.
Bon, Didier Queloz, votre avis, vous, sur la question? Ça nous intéresse?
Moi, je partage absolument la vue de Michel, j'imagine, qui est assez représentative de celle de tous les physiciens. La physique est basée sur un principe que les événements qui se reproduisent ici se produisent également ailleurs. Il n'y a pas de raison qu'on soit dans une situation très particulière. Puis finalement, vu de l'œil du physicien, la vie, c'est de la chimie. Donc, voilà, la chimie doit pas être très différente ailleurs. Donc c'est un problème de temps, c'est un problème de combinaison, c'est un problème de conditions. L'univers est tellement vaste, il y a tellement de planètes dans l'univers que pour moi c'est absolument évident qu'il y a de la vie qui s'est développée ailleurs. Et je serais même porté à penser que la vie s'est probablement développée également sur d'autres objets de notre système solaire. C'est pour ça que certaines personnes vont rechercher ou recherchent de la vie activement dans Mars, sur Titan, sur Enceladus, tous ces objets que l'on connaît bien, parce que, encore une fois, la chimie ici doit également se passer ailleurs.
Je vous ai vu déclarer, Didier Queloz, que peut-être même qu'une deuxième vie sur Terre existerait sans que nous le sachions.
Oui, ça c'est un gros, c'est quelque chose qui est recherché depuis très longtemps. Vous savez, nous on a construit notre compréhension du modèle de vie sur quelque chose de simple, qui est basé sur ce qu'on observe. Donc c'est la chimie du DNA ou du RNA. Donc on sait ce qu'on cherche. Si maintenant vous cherchez quelque chose de complètement différent et vous savez pas ce que vous cherchez, ça rend la recherche beaucoup plus difficile. Donc il y a des groupes actuellement qui sont très actifs, qui se posent toujours la question, mais est-ce qu'on raterait quelque chose que l'on pourrait considérer de vivant sur Terre, mais simplement on ne sait pas quoi chercher. Vous savez, quand vous cherchez des choses qui ont la taille de molécules et puis qui est très rare et puis qui s'est peut-être enfoui à 100 mètres sous terre, ça rend votre travail difficile. Donc en fait, on n'en sait rien. L'idée étant qu'il est très possible que la vie soit apparue très tôt sur Terre et puis que le phénomène suggéré du bombardement tardif aurait pu quelque part modifier la donne et faire qu'une nouvelle vie se serait reconstruite à partir d'autre chose, mais qu'on aurait encore des villes antiques, d'une vie antique qui resterait. Il y a aussi le problème de l'ancêtre commun. Les gens recherchent le fameux ancêtre commun à tous. Et beaucoup de questions se posent autour de ça. Je trouve que c'est absolument fascinant comme domaine que l'on puisse maintenant aborder ces questions-là et que l'astronomie puisse maintenant apporter une nouvelle manière de regarder ça et peut-être des sites pour lesquels on pourrait imaginer d'aller y détecter de la vie à distance.
Oui, Michel Mayor.
Oui, j'aimerais juste attirer l'attention qu'il ne faut pas croire que tous les scientifiques adhèrent à ce genre d'idées.
Ah oui.
Comme je connais beaucoup de très grands biologistes qui sont extrêmement sceptiques par rapport à cette idée. Donc, il ne faut pas croire que parce que deux astronomes, enfin Didier, on s'exprime à ce sujet-là maintenant, que c'est une sorte de consensus de la communauté scientifique. Les biologistes sont, je dirais, beaucoup plus prudents sur ces matières que les astronomes.
Enfin, sauf que comment imaginer que sur 100 milliards de planètes, Anne-Marie Lagrange, on n'ait pas une autre planète qui abrite la vie quand même, non ?
Je crois que la question préalable à votre question, justement, c'est qu'est-ce que c'est que la vie ? Comment on la définit ? Didier a dit, on est basé sur la vie, sur la chimie du carbone, ça pourrait être autre chose, mais tant qu'on n'en sait rien, c'est très difficile. Et toute discussion par rapport à ça doit poser d'abord les bases de qu'est-ce que c'est que la vie.
Philippe, très vite pour terminer.
Oui, regardez, pour les planètes, on passait chercher ce qu'on connaissait déjà, nos planètes, on trouve tout autre chose. Alors pour la vie, c'est peut-être aussi comme ça. Au départ, on cherche que ce qu'on connaît et puis l'univers est beaucoup plus créatif.
En tout cas, merci infiniment à vous tous. On peut vraiment vous remercier de nous avoir accueillis d'abord ici à l'Observatoire d'Oprah, qui était le historique de la découverte donc de ces nouveaux mondes, avec donc il y a 20 ans la toute première exoplanète. Merci à vous Didier Queloz, vous étiez en direct de Cambridge, vous êtes professeur. Et puis Renaud Leventu, merci, Auguste Leventu, pardon. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici chez vous. Michel Mayor, à très bientôt, on l'espère.
Merci.
Bonne découverte. Et puis Anne-Marie Lagrange, vous aussi, pour la suite de vos travaux. Je signale donc ce numéro de Ciel et Espace consacré aux exoplanètes et qui est dans les kiosques en ce moment, l'extravagante pluralité des mondes. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Mathieu Vidard.
Affaires sensibles avec vous dans quelques minutes.
Oui, on va retomber sur Terre avec la mort de Robert Boulin le 30 octobre 1979. Et notre invité sera Benoît Colomba de France Inter, qui a retrouvé de nouvelles pistes qui ont débouché sur l'ouverture d'une information judiciaire le 11 septembre dernier.
Et ce sera après les infos.